Bienvenue dans notre échange de perspectives. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une dynamique qui est vraiment en train de redéfinir l'accès à la propriété dans l'une des métropoles les plus attractives de France. Nous allons analyser l'acquisition immobilière sans aucun apport personnel initial, et ce, à Bordeaux, en cette année 2026.
Oui, c'est un sujet fascinant. Surtout quand on observe que le prix moyen sur le marché bordelais s'est stabilisé à un niveau particulièrement exigeant, atteignant environ 4 450 euros le mètre carré. Donc la question centrale qui va animer notre discussion est, je dirais, assez tranchée.
Absolument. Nous allons nous demander si la stratégie du financement à 110 % et la création de ce qu'on appelle un apport virtuel via de multiples aides publiques, si tout cela constitue une solution financièrement robuste pour les primo-accédants.
Ou bien, à l'inverse, si cette ingénierie financière, qui est très complexe, n'expose pas l'emprunteur à un risque systémique et à une vulnérabilité excessive sur le long terme.
Et pour préciser le cadre de notre échange, cette réflexion s'appuie directement sur une analyse technique récente et très détaillée du marché immobilier bordelais et des dispositifs de financement en vigueur en 2026. Pour ma part, je défendrai l'idée que la combinaison rigoureuse des prêts aidés crée un effet de levier qui est non seulement sécurisé, mais tout à fait viable pour une nouvelle génération d'acheteurs. Je suis vraiment convaincue de ça.
Et je soutiendrai de mon côté que cette architecture financière, bien qu'elle soit mathématiquement possible sur le papier, masque en réalité une fragilité fondamentale face aux inévitables imprévus de la vie et aux corrections du marché immobilier.
Entrons tout de suite dans le vif du sujet alors, si on observe la situation macroéconomique actuelle. Après quelques années de turbulences qu'on connaît tous, le marché bordelais offre une fenêtre d'opportunité assez inédite. Nous avons des taux d'emprunt bancaire classiques qui se sont stabilisés entre 3,10 et 3,40% sur des durées de 20 à 25 ans.
C'est un léger mieux par rapport au pic que nous avons connu l'année dernière, c'est certain.
Voilà, exactement. Et dans ce contexte précis, le concept d'apport virtuel est devenu fondamental. Ce n'est pas une simple astuce sémantique de courtier, c'est la véritable reconnaissance par les banques commerciales de la solidité des aides de l'État et des collectivités locales. Quand un acheteur n'a pas d'épargne pour payer les fameux frais annexes, donc les frais de notaire ou de garantie, il peut aujourd'hui empiler des dispositifs complémentaires.
Quand vous dites empiler, on parle de quel dispositif concrètement ?
Nous parlons principalement de trois piliers. D'abord, le prêt à taux zéro, le PTZ version 2026. À Bordeaux, qui est en zone A, il est particulièrement puissant puisqu'il peut financer jusqu'à 50% de l'opération. Ensuite, vous couplez cela au prêt à 0% de Bordeaux Métropole, qui peut injecter jusqu'à 20 000 euros. Et enfin, le prêt Action Logement, qui ajoute jusqu'à 30 000 euros à un taux dérisoire de 1%. Ces outils transforment un profil sans épargne en un dossier hautement crédible. C'est une ingénierie qui démocratise l'achat tout en s'appuyant sur la garantie de l'État.
Je comprends tout à fait l'attrait de cette ingénierie, mais permettez-moi d'apporter une perspective un peu différente sur cette fameuse sémantique. Le terme même d'apport virtuel est fondamentalement un euphémisme dangereux.
Dangereux ? C'est un mot un peu fort, non ?
Non, il est précis. Un apport, par définition, c'est un capital propre. C'est une richesse que vous avez déjà créée, épargnée, et qui vient absorber le risque initial de l'opération. Quand nous parlons d'un financement à 110%, il faut être d'une clarté absolue. L'acheteur emprunte la totalité du prix de l'appartement et il s'endette en plus pour payer les frais de notaire et les taxes.
Oui, mais ces prêts aidés sont conçus justement pour ne pas peser sur la mensualité comme un prêt bancaire classique.
C'est vrai sur le papier, mais mathématiquement, ça reste de la dette. Cela augmente le coût total de l'opération sur 25 ans. Et mon inquiétude principale, c'est l'absence totale de filet de sécurité initial. Se lancer dans un achat immobilier sans la moindre épargne de précaution, c'est se placer dans une situation de vulnérabilité extrême. De plus, il y a un risque immédiat de ce qu'on appelle en finance le negative equity.
Les capitaux propres négatifs ?
Exactement. Si les prix de l'immobilier bordelais subissent ne serait-ce qu'une légère correction à la baisse les premières années, l'acheteur devra à sa banque une somme supérieure à la valeur réelle de son appartement. S'il doit revendre en urgence à cause d'une mutation professionnelle ou d'une séparation, il ne peut tout simplement pas le faire sans accuser une perte qu'il n'a absolument pas les moyens de couvrir.
Je vois tout à fait pourquoi vous pointez ce risque théorique. Mais regardons l'efficacité réelle de ce montage à travers un cas concret tiré de l'analyse du marché. Prenez une famille avec un enfant qui dispose de 5 000 euros de revenus nets mensuels. il vise l'acquisition d'un appartement T4 d'environ 85 mètres carrés, affiché à un peu plus de 386 000 euros, frais de notaire inclus. Sans épargne, cela paraît impossible, on est d'accord.
En effet, 386 000 euros, c'est un montant très important pour un primo-accédant sans capital de départ.
Et pourtant, si nous appliquons l'ingénierie de l'apport virtuel, cette famille peut cumuler 135 000 euros de PTZ, 15 000 euros de prêt Bordeaux Métropole et 30 000 euros d'Action Logement. Quel est le résultat direct de cette structuration ?
Le prêt principal s'en trouve réduit, j'imagine.
Drastiquement réduit. Le crédit bancaire classique, celui qui porte le taux d'intérêt de 3,40%, et le risque principal tombe à environ 206 000 euros. Conséquence, la mensualité globale de cette famille s'établit autour de 1100 euros par mois.
1100 euros seulement ?
Oui, environ 1113 euros pour être très précise. C'est massivement inférieur à leur plafond d'endettement théorique qui se situe plutôt autour de 1750 euros pour ces revenus-là. Ce montage démontre qu'en enquillant ces dispositifs, on ne crée pas un risque démesuré, on dilue le risque. Et surtout, une mensualité de 1100 euros pour un T4 neuf à Bordeaux, c'est bien souvent inférieur au prix d'un loyer dans le parc privé actuel. On transforme une dépense à fonds perdu en constitution de patrimoine.
Je suis d'accord avec la logique mathématique que vous avancez pour le court terme. Mais il y a un angle mort majeur dans ce raisonnement. Cette lecture des chiffres occulte une dynamique de la dette qui est beaucoup plus pernicieuse sur la durée. Vous présentez ces aides comme si elles neutralisent le risque. Mais la réalité juridique, c'est que chaque euro prêté par l'État ou la métropole devra être remboursé un jour.
Bien sûr, ce sont des prêts, personne ne prétend le contraire.
Sauf que la structure de ces prêts crée une véritable bombe à retardement. Prenons le PTZ de 135 000 euros que vous citez dans votre exemple. Il offre souvent ce qu'on appelle un différé d'amortissement. C'est une période de grâce de 5 à 15 ans pendant laquelle l'emprunteur ne paie aucun capital sur cette ligne de crédit spécifique.
C'est justement ce qui permet de maintenir la mensualité à 1100 euros au début de l'opération.
C'est exact. Mais que se passe-t-il à la fin de cette période de différé ? L'emprunteur, disons à l'année 10 ou 15, va devoir commencer à rembourser massivement le capital de ce PTZ sur une période beaucoup plus courte, tout en continuant à payer son prêt principal.
Vous voulez dire qu'au bout de 10 ans, la mensualité risque d'augmenter significativement ?
C'est exactement ça. Le choc financier est différé, il n'est pas annulé. Au lieu de constituer un capital propre et solide dès les premières années, l'emprunteur passe la première décennie à jongler avec un empilement de lignes de crédit. Il ne possède quasiment rien de la valeur réelle de son appartement pendant des années. En réalité, il loue l'argent à de multiples créanciers. Ce n'est pas de la dilution de risque, c'est une complexification extrême de la dette qui le rend incroyablement rigide face aux futurs changements de la vie.
Cœur du système bancaire qui protège l'emprunteur en amont. Le risque que vous décrivez est neutralisé avant même la signature chez le notaire, grâce aux exigences draconiennes des banques en 2026.
Draconiennes à quel point ? Car financer à 110%, c'est intrinsèquement risqué pour n'importe quelle banque.
Justement, ce type de financement n'est absolument pas distribué à la légère. Il est réservé à des profils dont l'analyse financière frise la perfection. Pour obtenir ce montage aujourd'hui, il faut présenter un CDI confirmé hors période d'essai ou être fonctionnaire. Il faut des relevés de compte immaculés, sans l'ombre d'un découvert bancaire ou d'une commission d'intervention sur les 6 derniers mois. La règle du taux d'endettement maximum de 35% est appliquée sans aucune dérogation.
Le respect des 35% est effectivement une obligation légale, mais cela ne garantit pas la solvabilité face aux imprévus.
C'est pour cela que les banques imposent une seconde couche d'analyse très poussée, ce qu'on appelle le reste à vivre. Elles exigent qu'il reste entre 700 et 1000 euros pour une personne seule, plus 300 à 500 euros par enfant après le paiement de toutes les charges et de tous les crédits. Mieux encore, elles scrutent le saut de charge.
Le saut de charge, c'est-à-dire la différence entre l'ancien loyer et la nouvelle mensualité de crédit.
Tout à fait. Si vous payez 800 euros de loyer et que votre nouveau crédit est à 1100 euros, vous avez un saut de charge de 300 euros. La banque exigera que vous prouviez, via vos relevés bancaires passés, que vous étiez déjà capable d'épargner ces 300 euros tous les mois. C'est presque une sélection darwinienne. Seuls les ménages avec une discipline financière exemplaire accèdent à cette propriété sans apport. Le filet de sécurité réside dans le comportement structurellement sain de l'emprunteur.
L'analyse de la banque est indéniablement stricte sur ces paramètres, je vous l'accorde. C'est un argument convaincant pour l'octroi du crédit en lui-même. Mais avez-vous considéré la réalité transactionnelle sur le terrain en Russe ? La rigueur algorithmique de la banque se heurte très souvent au pragmatisme brutal du marché immobilier.
C'est-à-dire, quel est le blocage selon vous à ce niveau-là ?
Prenons la toute première étape de l'achat, la signature du compromis de vente. Dans la pratique notariale courante à Bordeaux, il est exigé de verser un acompte, un séquestre, qui représente généralement entre 5 et 10% du prix du bien. C'est fait pour prouver le sérieux de l'engagement à l'acheteur.
Sauf que l'acheteur à 110% ne possède pas ce séquestre par définition, puisqu'il n'a pas d'épargne.
Exactement. Il va donc devoir entamer son parcours en demandant une faveur au vendeur, en négociant la suppression pure et simple de cet acompte. Dans une zone extrêmement tendue comme Bordeaux, face à d'autres acheteurs qui disposent d'un apport réel et de cash, notre candidat apparaît immédiatement comme un acheteur fragile. Son pouvoir de négociation sur le prix du bien s'en trouve sévèrement amputé.
C'est un obstacle, je vous l'accorde, mais qui se contourne avec l'accompagnement d'un bon professionnel de l'immobilier, un agent ou un courtier, qui rassure le vendeur sur la solidité des aides d'État.
C'est possible, oui, mais cela ajoute une friction énorme. Et pour revenir sur votre point concernant le comportement financier sain et le fameux reste à vivre validé par la banque, la discipline financière ne répare pas un chauffe-eau qui lâche au mois de janvier. La discipline ne peut pas un ravalement de façade voté en urgence par la copropriété l'année suivant l'achat.
Mais le reste à vivre est là pour absorber les dépenses courantes.
Les dépenses courantes, oui. Pas les chocs en capital que tout propriétaire finit inévitablement par subir. Une voiture qui tombe en panne, une restructuration économique en prévu, entraînant une baisse de revenus. Un acheteur sans épargne de précaution est comme un funambule sans filet. Le fait qu'il sache très bien marcher sur la corde, ce qui est validé par la banque, ça n'annule pas la gravité de la chute s'il trébuche.
C'est une image frappante, mais c'est précisément pour atténuer ces chocs liés au bâti et à la copropriété que les conditions des prêts aidés sont conçues avec une forte dimension d'orientation. Le système anticipe ces risques physiques.
De quelle manière ?
En imposant des restrictions géographiques et des typologies de biens spécifiques, vous voyez peut-être cela comme des contraintes, mais moi je les considère comme une puissante incitation à réaliser des investissements intrinsèquement sécurisés. À Bordeaux, le PTZ 2026 impose pratiquement l'achat dans le neuf, que ce soit sur plan, en VFA, ou dans des logements achevés depuis moins de 5 ans.
Oui, l'obligation d'acheter du neuf, c'est effectivement le cœur du dispositif en zone A.
Et qu'est-ce que cela signifie concrètement pour notre funambule ? Cela signifie que l'acheteur est mécaniquement orienté vers des biens qui répondent aux toutes dernières normes environnementales, comme la norme RE 2020. Un logement neuf, c'est la garantie décennale. Pendant les 10 premières années, le risque de devoir payer pour un défaut structurel ou le fameux ravalement de façade que vous citiez est quasi nul.
Je vous concède que l'absence de gros travaux à court terme est un bénéfice clair.
Sans compter la facture énergétique qui est totalement maîtrisée, ce qui libère du pouvoir d'achat mensuel pour compenser l'absence d'épargne. Et n'oublions pas les leviers fiscaux qui accompagnent souvent ces achats neufs. Sous condition de ressources, on parle d'une TVA réduite à 5,5% au lieu de 20%. Dans certains quartiers de rénovation urbaine et parfois une exonération de la taxe foncière pendant 15 ans. Ce n'est pas rien. Ces avantages annexes créent un environnement hautement protecteur qui compense le manque d'apport.
Vous décrivez cet environnement comme protecteur, mais d'un point de vue purement économique, je perçois ces critères comme un enfermement de l'acheteur dans un segment de marché artificiellement gonflé.
Gonflé parce que c'est du neuf.
Gonflé par l'existence même de ces aides. Commençons par les plafonds de ressources. Pour bénéficier du PTZ en 2026, une personne seule ne doit pas dépasser environ 37 000 euros de revenus fiscaux. Il y a un effet de seuil brutal. Gagner une prime exceptionnelle, dépasser ce plafond de quelques centaines d'euros et tout le montage à 110% s'effondre. Cela limite drastiquement qui peut réellement en bénéficier.
C'est le principe même d'une aide sociale. Elle cible ceux qui en ont le plus besoin.
Certes. Mais parlons de l'obligation d'acheter dans le neuf. C'est une arme à double tranchant redoutable. Oui, vous évitez les travaux immédiats, mais le neuf se paie au prix fort. On parle très souvent d'une surcote de 15 à 20% par rapport à l'ancien récent. Et les promoteurs intègrent très souvent l'avantage du PTZ et de la TVA réduite directement dans leurs prix de vente initiaux.
Vous pensez que l'aide est absorbée par le marché directement ?
Très souvent, oui. Ce qui signifie que l'acheteur paie un bien qui subira inévitablement une décote lors de sa revente sur le marché de l'ancien dans les 5 premières années. Nous revenons exactement au risque de negative equity dont je parlais au début.
Mais l'objectif de ces acheteurs n'est pas de faire un aller-retour spéculatif en 5 ans, c'est d'y habiter sur le long terme.
Sauf que la vie ne prévient pas, et permettez-moi d'aborder une autre de ces solutions soi-disant innovantes que le PTZ autorise, le bail réel solidaire,
le fameux BRS.
C'est un excellent dispositif pour faire baisser le prix d'achat à Bordeaux pourtant.
Pour ceux qui ne sont pas familiers, le BRS, c'est ce mécanisme assez particulier où vous achetez les murs de votre appartement, mais vous ne devenez jamais propriétaire du terrain. Le foncier appartient à un organisme de foncier solidaire. Il faut être intellectuellement honnête sur ce que cela implique pour l'acheteur.
Cela implique une décote immédiate de 30 à 40% sur le prix d'achat. C'est massif.
C'est massif, mais à quel prix conceptuel? L'acheteur s'endette sur 25 ans, paie des intérêts bancaires considérables, assume toutes les charges d'un propriétaire classique, mais il ne possédera jamais le sol. Et il devra s'acquitter d'une redevance mensuelle perpétuelle pour louer ce terrain. Est-ce encore de la pleine propriété?
C'est une propriété dissociée, mais qui répond pragmatiquement au problème du coût foncier délirant dans les grandes villes.
Moi, je vois cela comme un modèle hybride, une forme de location de très longue durée adossée à une dette bancaire lourde. Cela limite fortement la création d'un patrimoine transmissible classique et plafonne drastiquement la plus-value à la revente. C'est un remède qui traite le symptôme de la flambée des prix immobiliers à Bordeaux, mais qui ne traite en rien la maladie de fond.
Je comprends vos réserves sur la nature de la propriété en BRS ou sur la surcote du neuf. Mais si nous devons synthétiser nos échanges, je maintiens ma position initiale. Le financement à 110% dans le contexte de l'année 2026, tel que structuré aujourd'hui, n'est plus l'anomalie risquée d'il y a 10 ans.
Vous considérez toujours que c'est une solution robuste ?
Absolument. C'est devenu un mécanisme d'accession sociale très encadré. Oui, cela exige une discipline de fer. Oui, cela cible des biens spécifiques et nécessite une gestion de compte irréprochable. Mais si l'emprunteur respecte ces règles du jeu strictes, la création de cet apport virtuel permet de faire sauter la barrière d'entrée la plus brutale d'un marché très tendu comme Bordeaux. C'est un outil qui permet à des familles de transformer leur capacité de paiement mensuel en véritable constitution de patrimoine au lieu de rester captive d'un marché locatif extrêmement cher.
De mon côté, je maintiens que l'absence de capital de départ, d'une épargne palpable, reste une faille structurelle majeure. L'ingénierie financière poussée des banques rend cet achat possible, sur le papier, c'est indéniable. Mais elle laisse l'emprunteur durablement exposé aux aléas de la vie professionnelle ou personnelle et vulnérable aux corrections du marché immobilier. Se lancer dans ce parcours sans filet de sécurité exige une trajectoire de vie qui ne tolère littéralement aucune erreur pendant des décennies. C'est une attente qui, à l'échelle d'une vie humaine, me paraît périlleuse.
C'est une opposition de vision très claire. Toutefois, je pense que nous nous accordons sur un constat fondamental. Au terme de cette analyse, ce type d'opération immobilière ne souffre d'aucune improvisation.
Nous sommes tout à fait d'accord sur ce point. Le niveau d'exigence des institutions financières aujourd'hui montre que ce parcours nécessite une préparation en amont de plusieurs mois, voire de plusieurs années.
Assainir ses comptes, analyser au centime près les plafonds de ressources, comprendre la superposition des différentes aides, locales et nationales.
Exactement. L'accès à la propriété sans épargne à Bordeaux s'est fondamentalement transformé. Ce n'est plus une simple transaction, c'est devenu un exercice d'optimisation extrêmement complexe de la dette privée combinée à l'emprunt public. Cela exige des futurs acquéreurs qu'ils deviennent de véritables gestionnaires aguerris de leurs propres risques financiers.
En définitive, la pertinence de cette stratégie d'acquisition sans apport reposera toujours sur la tolérance au risque de chaque futur propriétaire et sur sa capacité à maintenir une stabilité prévisible sur le long terme. Il y a clairement matière à prolonger la réflexion à partir des données de notre source. Il appartient désormais à nos auditeurs d'examiner de plus près les subtilités de ces prêts aidés locaux, comme ceux de Bordeaux Métropole, et de peser les implications réelles d'un engagement sur le marché du neuf. Nous espérons que cet échange vous aura fourni des clés d'analyse utiles pour affiner votre propre perspective sur le sujet. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel échange.